Thibaud de Rouvray, bonjour.
Bonjour, Hugues Villagéraud.
Alors, le thème de notre émission du jour a un bien joli nom. Il sonne comme une promesse et résonnera certainement harmonieusement aux oreilles de nos auditeurs. Les voix de l'Église, tribune, orgue et chantre. Alors, vous l'aurez compris, il est donc question de son, qu'il s'agisse de voix, de musique et aussi des emplacements où ils prennent leurs envols. Et les occasions de les entendre ne manquent pas, notamment autrefois avec une multitude d'offices tout au long de la journée. L'Église d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui.
Oui, pour prendre un exemple, la liste des offices qui avait lieu à la paroisse de Gourdes en 1880, qui peut surprendre par le nombre d'offices, puisque les jours de semaine, les jours normaux de semaine, il y a jusqu'à 4 messes le matin et jusqu'à 5 le dimanche, plus les vêpres à 15h.
Alors, multitude des offices et puis aussi différents types de messes.
Oui, là c'est vrai que les premières messes à 5h du matin étaient pour les personnes avant de se rendre au travail et toutes n'étaient pas chantées avec des orgues et autres. Il y avait ce qu'on appelle des messes basses, des messes simplement lues, donc dialoguées. Et puis pour les grandes solennités, ce qu'on pouvait appeler la grande messe, on faisait appel à la musique, donc à l'orgue, à l'harmonium et au chantre.
Bon, il y a aussi tout au long de l'année liturgique quelques jours exceptionnels. On pense à Pâques, à Noël, au 15 août.
Oui, bien sûr, avec des solennités ces jours-là et accompagnés aussi de fêtes particulières, de processions et aussi à l'occasion parfois de retraites ou de prédications qui avaient lieu dans les églises.
Alors, le thème de cette émission, nous le disions, c'est les voix de l'Église, tribune, orgue et chantre. Avant de s'intéresser aux orgues et aux chantres, un petit mot sur les tribunes. Quel est leur rôle? Leur disposition n'est pas toujours identique?
Alors, en général, c'est vrai que la tribune, alors parfois on emploie le terme de mezzanine, c'est plus parlant, donc c'est une petite galerie qui est en général établie au-dessus de la porte d'entrée de l'église, mais parfois elle peut avoir un développement assez important. Je pense par exemple au Pays Basque où on a ces grandes galeries, ces tribunes qui courent tout au long des murs de la nef.
Et qui sont réservées à un public particulier. Vous évoquiez le Pays Basque, là c'est souvent la place des hommes.
Tout à fait, voilà, ça c'est un peu moins, dans certaines régions ça ne s'est pas forcément gardé, mais au Pays Basque ou même autrefois dans les Pyrénées, les femmes étaient dans la nef au contact du sol, des morts qui étaient enterrés sous l'église et les hommes, eux, étaient en tribune à leur place respective.
Alors, dans ces tribunes, c'est la place des hommes en général ou de publics particuliers et donc aussi, on y vient, des chantres et des choristes. Alors, parmi ces voix de l'église, précisément, il y a donc les chantres et ils ont une assez longue histoire.
Oui, les chantres, on les retrouve depuis une très longue antiquité dans l'Église. Ils étaient particulièrement importants aussi au sein des monastères où ils constituaient un ordre religieux particulier. C'était une fonction importante parmi, je dirais, l'encadrement religieux des abbayes.
Alors, un petit exemple, illustration dans les Hautes-Pyrénées, une date importante, 1586, fin du XVIe.
Oui, alors là, un exemple de la création d'un office de chantre dans l'abbaye bénédictine de Saint-Sevé. Alors, il est important de redonner de l'éclat au culte. C'est une abbaye qui vient d'être dévastée durant la guerre de religion. Donc, l'abbé, les moines, décident de créer un office de chantre, donc de rémunérer, alors non pas un religieux, mais un laïc, pour enseigner le chant, animer les cérémonies, et donc enseigner le chant aussi aux enfants de chœur et aux novices.
Alors, c'est une fonction une charge qui est assez codifiée, avec des rémunérations précises.
Oui, alors bien sûr, il faut avoir quelqu'un sous la main qui soit qui connaisse la musique, c'est préférable, donc qui sache lire la musique, qui sache enseigner le plein chant. Beaucoup de maîtrises de cathédrales aussi possédaient autrefois leur chantre, et très codifié, par ça, c'est une vraie fonction sociale au sein de l'abbaye, au sein de la paroisse.
Alors, il y a la voix, celle des chantres. N'oublions pas non plus peut-être le cœur des fidèles. Quand est-ce qu'il fait son apparition dans l'Église et dans la liturgie?
Alors, je pense depuis le Moyen-Âge, il y a le chantre lui-même qui est entouré d'un petit groupe en général de chanteurs aussi autour de lui. En général, ce sont des enfants de chœur ou quelques hommes qui prêtent leur voix pour avoir les différentes tessitures de voix. Il peut y avoir plusieurs places aussi dans les stalles. Aussi, parfois, on a l'impression qu'il y a énormément de sièges dans le chœur de certains certaines églises, mais il faut imaginer la place de ces chorales.
Alors, au-delà des chorales, quand est-ce que bon, c'est peut-être une colle que je vous pose. Quand est-ce que le fidèle, le simple fidèle, mm-hmm. le croyant installé dans l'église participe par ses chants à la liturgie?
Je pense qu'au dès le Moyen-Âge, il y a pu y avoir entraîné voilà, justement par ce chœur hein, et par ce chantre, il y a pu y avoir des fidèles qui suivent les mélodies et qui participent aussi de la cérémonie.
Alors la voix, celle des chantres, mm-hmm. celle aussi des chœurs, mais il y a aussi donc la musique, les sons. Alors on pense bien évidemment aux orgues qui sont présentes dans beaucoup d'églises. Quand font-ils leur apparition?
Alors là aussi, c'est un instrument que l'on trouve dès l'Antiquité, puisque probablement en Grèce antique et dans la Rome antique, il y avait des instruments de ce type qui ont été repris dès le Moyen-Âge dans les églises, parce qu'on peut reproduire avec un orgue à peu près tous les sons, y compris ce qu'on appelle la voix humaine. Donc on a des exemples...
Les plus anciens spécimens, parce que vous parlez de l'Antiquité,
oui.
Les plus anciens spécimens conservés aujourd'hui.
Alors il y en a un en particulier en Suisse, dans l'église de Sion, qui remonte au XVe siècle. Voilà, mais ce sont des instruments qui ont beaucoup évolué au cours du temps, puisque la mode aussi, la musique a évolué.
Alors justement, évolution, variation dans l'esthétique, dans l'utilisation, peut-être dans les sonorités, dans les savoir-faire, mm-hmm. certainement. Quelques dates importantes, quelques repères chronologiques.
Oui, alors quelques orgues médiévaux, mais en général, ils ont été transformés au cours du temps. Après, des orgues Renaissance, je pense par exemple dans les Hautes-Pyrénées à celui de Saint-Savin, qui est du milieu du XVIe siècle.
Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, déjà, oui. Découvrir l'abbatiale de Saint-Savin est un pur ravissement. Et puis, il y a cet orgue qui a la spécificité d'avoir une espèce de gargouille qui sort lorsque certains jeux de l'orgue sont exercés, je crois.
Oui, c'est vrai que les orgues de la Renaissance, ils sont très ludiques. Donc, à Saint-Savin, il y a trois masques, en fait, dont les bouches hein, bougent un peu comme des castagnettes. Et il y a aussi un jeu qui fait tourner un soleil, une lune et un petit jeu qui imite le bruit, le son des oiseaux.
Alors, orgue Renaissance, 16e, et puis après vient la période baroque. Des exemples, alors baroque allemand, baroque français
Oui, voilà, sur différentes esthétiques, c'est vrai que la plupart des grandes cathédrales ont encore des orgues baroques. Hein, je pense aussi à ceux de Rodez, par exemple, qui est du début du XVIIe siècle. Un des plus imposants dans la région, ancienne région Midi-Pyrénées, c'est celui de la cathédrale d'Albi, qui a son buffet assez colossal. Et souvent, ces instruments ont évolué et ont été modifiés au XIXe siècle pour avoir un registre romantique, en fait, pour jouer les pièces de cette époque-là.
Fin 19e, alors là, on quitte le romantisme, on est dans la symphonique. On a affaire quoi, des orgues plus majestueux, plus imposants?
Oui, qui ont des buffets très développés, qui ont beaucoup de registres aussi, qui peuvent permettre de jouer les grandes pièces symphoniques de la fin du XIXe siècle. Et voilà, parfois, dans un buffet ancien, on aura une mécanique hein, qui a évolué, et parfois, on est revenu aussi, quand on le pouvait, à l'esthétique d'origine.
Alors, vous nous dites que c'est un instrument qui remonte à l'Antiquité, probablement, mais qui existe toujours aujourd'hui, bien évidemment, mais se fabrique encore aujourd'hui. Il y a encore des facteurs d'orgue, des fabricants d'orgue.
Oui, c'est vrai que c'est un métier qui est de plus en plus rare et difficile. Alors, notamment dans la région, je pense à l'atelier PES à Pau, hein, qui entretient ou a réalisé certains orgues dans la région, notamment à Lourdes, notamment les orgues néoclassiques de la basilique Saint-Pédis, hein, qui a été restaurée récemment.
Alors, on termine justement sur cette orgue avec sa place tout à fait importante dans la vie de l'Église, très spécifique, avec tout ce qui a trait à sa bénédiction lors de sa mise en service.
Oui, l'orgue, c'est vrai, comme tout mobilier d'église, hein, comme une statue, comme une bannière, comme un autel, doit être béni. Hein. C'est donc une cérémonie très particulière lorsqu'un orgue est construit ou même restauré et qu'il est remis en fonction. L'évêque ou son représentant doit procéder à sa consécration, à sa bénédiction pour qu'il puisse servir au culte.
Vous aviez évoqué hors antenne un échange entre le récitant ou le prêtre et l'orgue.
Oui, c'est quelque chose qui est assez beau, assez poétique, puisque les prières de la consécration font appel à une sorte de dialogue. Hein. Le prêtre s'adresse à l'orgue, hein, orgue, chante, révèle-toi, et donc l'instrument, par l'intermédiaire bien sûr de l'organiste, va répondre avec différents jeux, et au fur et à mesure de la bénédiction, l'ampleur des jeux va devenir plus importante.
Thibaut de Rouvray, je vous remercie. Je rappelle que le thème de notre émission du jour, les voix de l'Église, tribunes, orgues et chantres. Merci et à très bientôt.
À bientôt.